Et votre invitée ce soir, Natacha Polony, Delphine Bateau, qui est députée des Deux-Sèvres, ex-ministre de l'écologie, candidate à la primaire des écologistes. On commence par quoi, Natacha?
On va commencer par vous poser, bonsoir Delphine Bateau,
bonsoir,
une question sur Marseille, parce que chez les candidats à la primaire écologiste, en gros, la réponse aux trafics qui sont en train de tuer la jeunesse marseillaise, c'est en général, il faut légaliser. On peut en débattre, mais est-ce que ça suffit comme réponse?
Non, ça suffit pas. D'abord, il faut pas caricaturer. Donc évidemment qu'il faut donner aux fonctionnaires qui sont sur le terrain, que ce soit des policiers, des magistrats qui le demandent, davantage de moyens. Mais il n'y aura jamais assez ni de policiers ni de magistrats si on ne met pas le paquet aujourd'hui pour sauver la jeunesse et pour que la jeunesse ait un avenir. Et donc par rapport à ce qui est indiqué sur la question des bâtiments des écoles, où c'est indispensable parce qu'il y a des conditions d'éducation qui sont absolument scandaleuses, il faut aussi que les moyens humains en termes éducatifs suivent. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par les uns et les autres, sur le diagnostic sur Marseille, c'est-à-dire que l'État ne découvre absolument pas la situation d'aujourd'hui, qu'il en est quelque part complice depuis longtemps des systèmes clientélistes qui ont été mis en place, et que là, la visite, l'espèce de tournée de promesses à laquelle on assiste, oui, renvoie au gouvernement futur, en fait, la question des résultats, et montre une forme des dysfonctionnements de ce qu'est aujourd'hui un système institutionnel organisé autour du présidentialisme.
On va y venir, justement. Nous le disions, vous êtes candidate à la primaire des Verts, vous qui venez du Parti Socialiste.
La primaire des écologistes, enfin, des écologistes d'Europe Écologie Les Verts, voilà, mais aussi d'autres formations, dont Génération Écologie.
Dont Génération Écologie, que vous avez rejoint donc à votre départ du Parti Socialiste. Alors d'abord, première question, il va y avoir combien de participants à cette primaire, puisque maintenant on a le chiffre, et on attend donc le vote de ces gens.
En fait, tout le monde peut s'inscrire jusqu'au 12 septembre. Donc toutes les personnes, il n'y a pas besoin d'être membre d'un parti politique, toutes les personnes de plus de 16 ans peuvent s'inscrire sur Internet pour voter. Pour l'instant, on est à un peu plus de 30 000 et j'espère que ça va monter.
C'est déjà plus que la primaire de 2017.
C'est déjà plus, mais c'est largement pas suffisant. Aujourd'hui, de très nombreux Françaises et Françaises se sentent écologistes. Ils ont l'occasion de venir peser sur les décisions.
Moi, ça, c'est un mystère. C'est quelque chose que je ne comprends pas. On voit dans toutes les études d'opinion que les questions écologiques, ça y est, elles intéressent les gens. Tout le monde a pris conscience qu'il y avait une urgence, alors cet été encore plus que d'habitude. Et là, franchement, ça ne se bouscule pas pour venir voter. Alors c'est quoi? C'est parce que, justement, les écologistes de l'écologie politique ne sont pas crédibles? C'est parce qu'ils sont hors sol par rapport à ce que les gens perçoivent des problématiques climatiques?
Ils ont du mérite. Beaucoup de militants se sont battus pendant des années, dos au mur, en lanceur d'alerte d'un certain nombre de destructions. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut que l'écologie grandisse. Il faut construire une écologie de gouvernement. C'est ce que je propose. Et il faut que cette écologie de gouvernement s'adresse à toutes et à tous dans la société française. Donc oui, il faut passer à ce qu'est une culture de gouvernement, de vouloir diriger l'État et se doter de la crédibilité nécessaire.
C'est pas gagné pour tous les candidats à la primaire, parce que ce que retiennent les Français pour l'instant, c'est plus les interventions de Sandrine Rousseau qui demande des médecins communautaires, c'est-à-dire des médecins noirs pour les noirs, des médecins gays pour les gays, ou qui explique qu'elle préfère les femmes sorcières plutôt que les hommes ingénieurs. Ça vous fait un mal de chien, non, quand même?
Je
sais que vous allez pas me dire non, mais de fait,
moi, je propose autre chose, je propose un autre chemin.
Vous vous dites écoféministe, elle aussi. C'est quoi en quoi être écoféministe va apporter quelque chose dans cette démarche de crédibilité dont vous parlez sur l'écologie?
L'écoféminisme s'adresse à tout le monde, aux femmes, aux hommes, à tout le monde. Et le propos est de dire qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà même du combat pour l'égalité, qui est indispensable, pour la parité. Il faut porter la volonté d'abolir tous les mécanismes d'infériorisation, de domination entre les humains et aussi vis-à-vis de la nature. C'est ça l'écoféminisme, et mon écoféminisme est à 100% laïque.
Oui, alors ça, vous faites bien aussi de le préciser, parce que là aussi, il y a peut-être débat au sein des candidats à la primaire, écologiste. Il y a une autre particularité chez vous, c'est que vous êtes une des rares à assumer un mot qui est un mot totalement tabou, même chez les Verts, c'est la décroissance. Alors, quand on dit décroissance, quand Emmanuel Macron en parle, il dit on va parvenir. C'est pas le modèle Amish qui nous plaît. En général, on sort la caverne, la grotte, la bougie. Ou alors, on explique mais regardez, la décroissance, on y est parce que il y a du chômage, il y a plus de croissance, c'est donc la décroissance. Je pense que vous allez nous expliquer que ce n'est pas exactement ça, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez concrètement, parce que autant moi, je comprends le concept, autant je veux savoir ce que vous, vous mettez derrière et ce que ça va nous faire si vous êtes élu et que vous nous mettez en place un système de décroissance.
Alors, très concrètement, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les décisions sont prises en fonction d'une boussole, qui est l'obsession pour la croissance économique, c'est-à-dire la croissance du PIB. La décroissance n'est pas la récession, c'est le fait de baser les décisions de l'État, notamment le budget, les choix financiers, sur, par exemple, la réduction de la pauvreté, par exemple, l'état de santé de la population, par exemple, le niveau d'éducation, et bien sûr, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le respect de la biodiversité. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est aujourd'hui dans une situation où on sacrifie le climat, on sacrifie la nature, on sacrifie des vies humaines au nom d'une obsession pour les bilans comptables. Et que ce modèle-là, aujourd'hui, il est destructeur, il nous emmène dans le mur et en plus, il ne nous rend pas heureux. Nous ne sommes plus, depuis déjà des décennies, dans une situation où croissance égale emploi égale réduction des inégalités. Aujourd'hui, croissance égale délocalisation, obsolescence programmée,
certes,
plastique dans les océans et changement climatique.
Il y a d'abord une chose, c'est que je pense que tous les gens qui nous écoutent, là, ils se disent très bien, on a bien compris qu'il n'y avait plus, en effet, d'emploi, qu'il y avait un creusement des inégalités, qu'il y avait des délocalisations. Mais est-ce que ça risque pas d'être pire? En fait, beaucoup de gens ne vous suivront pas parce qu'ils ont l'impression que vous allez les emmener dans que vous allez leur faire perdre le peu qui leur reste.
Alors, je comprends votre raisonnement qui est celui dans lequel une grande part de la société a été imprégnée pendant des décennies de propagande sur, en fait, la croissance fait le bonheur. Il trouve que c'est faux.
Aujourd'hui, ce modèle
nous emmène dans le mur et il menace notre sécurité. Parce que l'écologie, c'est un enjeu de sécurité nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la décroissance, c'est plus de travail, c'est plus d'activité et c'est plus de bien-être. Donc, c'est exactement l'inverse.
Et comment vous faites dans un monde ouvert ?
On va prendre des exemples très concrets. Les salariés de Knorr, là, dont l'usine ferme, ils sont victimes de l'obsession pour la croissance économique qui conduit à des délocalisations. C'est pareil pour les salariés des fonderies du Poitou. Qui subit aujourd'hui la malbouffe? Qui subit l'obsolescence programmée? En fait, ce sont les catégories les plus modestes qui sont les victimes de cette obsession
pour
la croissance économique.
Donc vous êtes pour une relocalisation de l'économie.
Je suis pour la relocalisation industrielle.
Qui va recréer de l'emploi, c'est ça ?
Je suis pour l'emploi de proximité. Je suis pour qu'on arrête avec un certain nombre de choses inutiles et polluantes.
Jusqu'où vous allez dans ce principe ? Parce qu'il y a deux questions qui viennent à l'esprit là-dedans. Première question, vous voulez relocaliser, il faut relocaliser des usines. Des usines, ça peut polluer. Pour que ça ne pollue pas, il faut investir dans la recherche qui va permettre de penser des usines qui soient des usines modernes, qui ne polluent pas, qui soient beaucoup plus écologiques. Ça, c'est le premier point. Donc, ça nécessite des fonds. Donc, il ne faut surtout pas mettre en danger la possibilité d'investir. Et surtout, derrière, comment vous faites en économie ouverte, c'est-à-dire vous interdisez les importations de produits faits ailleurs? Vous faites comment?
J'assume la nécessité de réduire les importations. Par exemple, les importations de soja qui nourrissent le bétail en France et qui concourent à la destruction de la forêt amazonienne, d'après moi, oui, doivent être réduites. Les importations d'énergie fossile qui contribuent pour 40% au déficit de la balance commerciale française et les gens actuellement subissent, par exemple, l'augmentation des prix du gaz. Oui, ce sont des importations qu'il faut diminuer. Comment? En investissant, par exemple, dans les travaux d'efficacité énergétique. Donc, encore une fois, la décroissance, ce n'est pas la récession, ce n'est pas la crise, c'est le fait d'organiser de façon méthodique une société qui rompt avec le consumérisme, avec le tout jetable et avec le productivisme.
Donc, vous allez dire aux gens, en gros, vous n'allez pas remplacer votre smartphone parce que de toute façon, ça pollue terriblement.
Et ça coûte cher.
Une batterie,
et ça coûte cher. L'obsolescence.
Vous allez arrêter de dépenser pour des voyages, par exemple, low cost, pour aller passer des vacances, peut-être sur une plage, etc. Vous allez.
Alors d'abord, cet été, beaucoup de Français ont redécouvert ont redécouvert les vacances en France et à quel point nous avons un beau pays. Deuxièmement, si on prend l'exemple des smartphones, beaucoup de celles et de ceux qui nous regardent ont fait l'expérience de l'obsolescence programmée des smartphones, du fait que, par exemple, la batterie, assez rapidement, a une espèce de fin de vie programmée et achète, parce que ça coûte moins cher, pratique déjà la décroissance en achetant des appareils qui sont reconditionnés et qui sont des appareils d'occasion.
Et donc, d'occasion. Vous direz à la grande distribution, je vous interdis de vendre tous ces produits parce que vous les importez et vous allez au contraire vous fournir
localement. Je dirais d'abord, la première chose, localement. Si on prend l'exemple de la distribution, la première chose, c'est
moi, je trouve ça très bien, mais
d'arrêter.
J'ai un doute sur la faisabilité.
D'arrêter le hold-up qui est en train de s'organiser en France avec l'implantation massive de multinationales comme Amazon qui détruisent des terres agricoles, qui détruisent des emplois dans le commerce de proximité. C'est un très bon exemple. Les entrepôts Amazon, c'est bon pour l'augmentation du PIB. Sauf qu'en fait, un emploi créé chez Amazon, c'est 4 emplois détruits dans le commerce de proximité. Donc c'est un bon exemple, si vous voulez, de l'écart qu'il y a aujourd'hui entre un indicateur qui fausse toute notre compréhension du monde et des réalités, et y compris les réalités du travail et de l'emploi.
Bien, merci beaucoup, merci. Delphine Bateau. On verra si vous avez convaincu les foules d'aller voter à la primaire écologiste tout à coup.
Inscrivez-vous, voilà, jusqu'au 12 septembre.
Oui, parce que 30 000, c'est quand même moins des 200 000 espérés. Hein. Oui, il y a un fossé. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, c'est le retour sur Actu.